L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger Ahmed Keteb, chercheur en relations internationales. Avec lui, nous allons analyser le contexte géopolitique et géostratégique, aussi bien en Afrique que dans le monde, dans lequel se tient le 15e sommet des BRICS du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous nous pencherons en particulier sur les questions de son élargissement à d'autres pays, de sa monnaie unique pour se défaire du diktat du dollar, et enfin la sécurité et la défense. Nous nous poserons la question également sur la place de l'Afrique dans la nouvelle architecture mondiale à l'aune des changements politiques qui soufflent sur le continent, notamment dans la région du Sahel, au Mali, Niger, Guinée-Conakry et Burkina Faso. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud, les pays des BRICS devront se prononcer lors du sommet sur l'élargissement de l'organisation. Un peu plus de 40% de la population mondiale vit dans les pays des BRICS, dont plus de 85% en Chine ou en Inde. La part des BRICS dans le PIB mondial a atteint 31,6%, calculé en parité de pouvoir d'achat, dépassant ainsi la part des économies du G7 qui s'établit à 29,9%. Une vingtaine de pays auraient formellement demandé de devenir membres à part entière du groupe. Parmi eux, l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria et le Sénégal. Si une décision favorable était prise lors du sommet de Johannesburg, la part des BRICS dans l'économie mondiale passerait à 40%. Et les pays membres représenteraient plus de 50% de la population planétaire en termes démographiques. La probabilité et les perspectives d'une monnaie des BRICS sont l'un des sujets les plus discutés dans le monde de la finance et qui acquérera une place centrale dans ce sommet. Si l'on en croit les médias mondiaux et les déclarations d'hommes politiques de différents pays, des propositions de création d'une monnaie d'union seront présenté lors du sommet en Afrique du Sud. La confiance dans le dollar continue de baisser et la dédollarisation du commerce mondial prend de l'ampleur. Alors, pour discuter de ce sommet qui s'annonce comme un tournant majeur dans la politique mondiale, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger Ahmed Keteb, chercheur en relations internationales. Ahmed Keteb, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Merci pour votre invitation.
Bien, c'est tout le plaisir est pour nous. Alors, les hostilités en Ukraine ont accéléré un bouleversement dans l'ordre mondial de première importance. Et l'ordre mondial, tel qu'il existait depuis la dissolution de l'URSS en 1991 et tel qu'il dérivait de la Seconde Guerre mondiale, est vraisemblablement, selon presque un avis unanime, a été mis à bas. Alors, comment analysez-vous la tenue de ce sommet des BRICS dans ce contexte spécifique ?
Vous avez raison de dire que les choses s'accélèrent et l'opération spéciale russe en Ukraine a mis à bas un ancien monde, un ancien système. Pourquoi ? Parce que les deux protagonistes, Russie d'un côté et États-Unis de l'autre, parce qu'il faut considérer les États-Unis comme le protagoniste réel face à la Russie dans cet épisode ukrainien. Ces deux protagonistes ont mis de côté une certaine hypocrisie qui a un petit peu marqué et régi leurs relations depuis la chute de l'URSS en 90. Donc, on est sorti du monde de Yalta, donc de 45. On est sorti du monde post-chute de l'Union soviétique, pour entrer dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde, où les relations internationales sont plus complexes, sont plus denses, où l'Occident amorce un déclin certain, mais se positionne dans une sorte de déni par rapport à ce déclin et croit toujours qu'il est omniprésent, omnipotent, omnipotent, omniscient, donc qui détient tous les leviers de la puissance, qu'elle soit matérielle ou symbolique. Aujourd'hui, le sommet des BRICS est un moment très fort parce qu'il rappelle, toute proportion gardée par rapport à la comparaison, parce qu'il rappelle le sommet de Bandung en avril 1955, celui qui a permis l'éclosion du mouvement des non-alignés, et dans une certaine mesure également, ça rappelle le sommet d'Alger des non-alignés en 1973, où pratiquement tout le sud global était réuni autour d'un idéal, celui d'un monde plus équitable et plus juste, avec la nécessité de réformer le système des Nations Unies, mais surtout de réformer les relations économiques internationales. Aujourd'hui, c'est la problématique qui se trouve au cœur des préoccupations des pays des BRICS. Donc, toute proportion gardée, Johannesburg aujourd'hui nous fait rappeler Bandung en 1955 et Alger en 1973.
D'accord. Donc, en réalité, là où on retrouve une partie de ceux justement qui étaient dans le bloc de l'Est, aussi incrustés dans ce monde ou dans le Sud global, comme vous l'appelez, le Sud global, et qui est dans une certaine mesure sera probablement rejoint par beaucoup de pays. Déjà, il y a 20 pays qui ont introduit des demandes officielles pour rejoindre ces BRICS. Mais en même temps, sans une motivation de rompre complètement l'équilibre, mais c'est-à-dire de rechercher uniquement une certaine liberté, une certaine justice, une certaine équité dans les relations internationales, à même de permettre à ces pays du Sud qui continuent à souffrir de se développer.
Oui, il y a un réajustement. Évidemment, la Russie, comme grande puissance stratégique, et la Chine comme grande puissance économique, sont les pivots moteurs des BRICS. Ce sont ces deux pays, ce binôme, qui drive un petit peu toute cette dynamique, sans oublier l'Inde bien évidemment, mais essentiellement le moteur des BRICS sont la Russie et la Chine. Donc on voit que ces 23 pays du Sud global qui veulent intégrer ce forum ont pour ambition de peser sur la suite des événements, d'être présents lors du moment de repenser l'échafaudage du système des Nations Unies et surtout participer à l'établissement de nouvelles règles, de nouvelles normes qui vont régir le monde de demain, tant sur le plan politique que sur le plan économique, parce que économiquement parlant, il y a un grand bond en avant avec cette volonté de casser l'ordre de Bretton Woods et de passer vers un nouveau système financier international plus équitable, moins prédateur, moins financiarisé, et beaucoup moins dollarisé. Donc, on est dans une optique de pratiquement, on est dans un triptyque un monde désoccidentalisé, désaméricanisé et dédollarisé.
D'accord. Bien, alors j'aimerais bien rebondir sur un propos que vous venez de dire et que j'estime est très très important, parce que vous évoquez en plus de l'aspect économique et financier, surtout l'aspect politique, et qui est très important. Alors, l'organisation du monde, Monsieur Ahmed Kateb, qui reposait sur le multilatéralisme, définissant alors les modalités de la mondialisation, et qui prétendait reposer sur des règles apolitiques, voilà, en disant que c'est les lois des marchés, les lois du marché, c'est comme les lois universelles du monde, il n'y a pas à chercher midi 14 heures. Cet aspect-là est entré en crise. Et les relations internationales se sont brutalement repolitisées. Donc, ce sommet des BRICS se tient justement dans cet aspect-là. Il a en filigrane cet aspect de position politique de tout un bloc. Ce n'est pas juste une revendication économique. Mais cette repolitisation s'accompagne aussi d'une forme de désoccidentalisation du monde qui, dont les représentations des acteurs s'apparentent à une seconde décolonisation, notamment pour les Africains et pour tous les pays qui ont souffert du diktat occidental néocolonial venant, et donc ce sommet-là, il vient renouveler et achever le processus des années 60 et des années 70 de décolonisation. Alors, moi, comment analysez-vous ce phénomène, notamment dans le continent africain et à l'aune de ce qui se passe dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel?
C'est très intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui, non pas uniquement au Sahel, mais à travers le monde. Il y a une sorte de révolte. Je vais reprendre ici le titre du martyr algérien Frantz Fanon, une révolte des damnés de la terre. C'est ces peuples anciennement colonisés qui ont souffert du joug colonial et qui ont souffert après leur indépendance du joug néocolonial, de la prédation des anciennes puissances coloniales, notamment avec les réseaux de la France-Afrique en ce qui concerne notre continent africain. Donc ces peuples-là ont affiché haut et fort leur ras-le-bol et leur refus de ce mépris qui leur a été affiché des décennies durant, pour dire haut et fort que maintenant l'ordre ancien est mort, on est là, on existe, les sociétés civiles africaines bougent, elles sont vivantes, elles se revendiquent panafricanistes, elles se revendiquent du legs de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba, de Frantz Fanon. Ils se revendiquent également du legs de Thomas Sankara. Donc, ils sont là. Ils pensent que l'alpha et l'oméga n'est pas la France, n'est pas la Grande-Bretagne, n'est pas les États-Unis d'Amérique. L'alpha et l'oméga sont leurs propres intérêts nationaux. Donc, il y a cette prise de conscience. Elle est spectaculaire. Elle est violente parce que c'est un trauma très fort dans lequel ces peuples-là étaient maintenus. Donc, il y a une sorte de délivrance psychologique. Et on la voit lors des manifestations, on la voit s'exprimer physiquement, symboliquement, à travers les drapeaux qui sont mis à bas et les drapeaux qui sont hissés. C'est très important. Lorsqu'on voit le drapeau français piétiné et brûlé, parce que ça représente, c'est une représentation du passé colonial et de la prédation du système clientéliste, prédateur, qui a inféodé les élites locales aux élites financières et capitalistes internationales. Et d'un autre côté, on voit d'autres drapeaux. On voit le drapeau russe, le drapeau chinois, mais aussi le drapeau algérien, hissé par les foules en liesse et brandi en guise de symbole de la résistance, mais aussi en guise de symbole de la délivrance de ces peuples par rapport au joug qui les maintenait dans cet esprit néocolonial et d'asservissement. Aujourd'hui, on le voit, les BRICS cristallise justement cette volonté d'émancipation, comme ce fut le cas jadis avec le mouvement des non-alignés. Aujourd'hui, les BRICS représentent l'anti-Occident par excellence, l'anti-modèle. Donc, les BRICS, c'est tout ce que l'Occident ne veut pas voir dans un miroir, mais il est là, il existe. D'un point de vue économique, les BRICS, uniquement les 5 pays qui représentent les BRICS, représentent aujourd'hui 31,5% du PIB mondial. Donc,
absolument.
Alors que
on y reviendra après,
oui, ne représente que 30%,
oui, oui.
Même pas 31%. Oui. À l'horizon de 2050, les BRICS, plus, donc avec l'apport de nouveaux pays, représenteront 50% du PIB mondial.
Oui.
C'est dire l'écart qui va se creuser entre cette puissance émergente, a-occidentale, pour ne pas dire anti-occidentale, a-occidentale, et un Occident décadent qui croit toujours à sa supériorité.
Donc, juste pour finir avec cette question-là, est-ce que donc l'organisation de ce sommet dans un pays africain, et qui plus est l'un des plus grands pays africains, l'une des puissances économiques de ce continent, a une très forte symbolique dans le contexte actuel?
Tout à fait. Le fait que l'Afrique du Sud abrite ce sommet est symbolique en soi, parce que c'est une Afrique du Sud arc-en-ciel, c'est une Afrique du Sud post-apartheid, c'est une Afrique du Sud qui a vu triompher le combat de feu Nelson Mandela. Donc Madiba serait très fier de voir son pays abriter un sommet historique des BRICS. Donc c'est une fierté pour l'Afrique du Sud, mais c'est également une fierté pour le continent africain de voir ce sommet se réunir à Johannesburg. Donc pratiquement les puissances émergentes du monde entier sont là. Donc on remarque que le seul pays européen hormis la Russie est la Biélorussie. Donc c'est très fort. Emmanuel Macron a voulu s'inviter, mais s'est vu opposer une fin de non-recevoir. Donc on voit que les BRICS sont un groupe a-occidental et qui entend affirmer sa distanciation stratégique et symbolique par rapport à l'Occident. Et là, l'Afrique se reconnaît pleinement dans cette dynamique, et c'est pas pour rien que beaucoup, de nombreux pays africains ont demandé à rejoindre ce forum, à l'instar de l'Algérie, de l'Éthiopie, de l'Égypte, du Nigeria, de plusieurs autres pays, le Kenya aussi, donc qui ont demandé à rejoindre les BRICS.
Mmh. D'accord. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Et je passe tout de suite donc à la question suivante. Des termes nouveaux, et vous les avez déjà cités, mais c'est quand même, il est très important de s'arrêter, parce qu'ils introduisent un nouveau paradigme dans la gestion des affaires du monde et dans les relations internationales. Et ces deux termes nouveaux, comme Occident collectif et Sud collectif, donc contenant y compris les pays des BRICS. Alors, si la circulation des marchandises, des flux financiers et des capitaux est remise en cause, c'est dans le domaine monétaire, mais aussi le domaine informationnel, que le polycentrisme et la fragmentation de l'espace sont les plus évidents, c'est-à-dire dans les médias, la fracture est claire entre les médias qui font de la propagande pour encore le maintien et la sauvegarde de l'hégémonie occidentale pilotée par les États-Unis et ceux qui disent stop justement à ce diktat. Alors, le village, le rêve d'un village global sous domination occidentale, notamment américaine, semble, à mon avis en tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis, mort. Alors, comment analysez-vous l'apparition de ce nouveau paradigme dans les relations internationales? Et peut-on dire que les BRICS ont réussi à ramener à nouveau le sens du non-alignement des années 60-70 dans les affaires du monde, redonnant ainsi une chance aux pays pauvres de se développer, mais y compris, je veux dire, parce que vous l'avez déjà évoqué sur le plan économique, mais sur le plan politique, culturel et informationnel.
Tout à fait. Les BRICS aujourd'hui représentent, c'est le groupe qui représente le mieux la philosophie des non-alignés des années 60 et 70. Les non-alignés avaient tout un programme d'émancipation du Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, donc anciennement les pays en développement, leur émancipation politique, économique, énergétique et culturelle et informationnelle. Donc on a vu ce mouvement se développer durant les années 60-70, avant qu'il y ait le virage de l'ultralibéralisme des années 80 avec le réganisme, le thatcherisme, avec le consensus de Washington, avec l'électrochoc des recettes inhumaines du FMI, de la Banque mondiale, qui ont complètement ruiné de nombreux pays du Sud global. Donc on voit qu'aujourd'hui, les BRICS représentent à nouveau cet idéal qui était très fort à l'époque et qui revient en force aujourd'hui parce qu'on parle davantage de réforme du système institutionnel des Nations Unies. Donc on est sur un nouvel ordre mondial plus équitable avec un Conseil de sécurité élargi à l'Amérique latine, à l'Afrique et à l'Asie. Donc avec probablement l'accession de l'Inde, et de deux pays africains, de deux pays latino-américains. Donc on voit qu'il y a une volonté de réformer en profondeur le système des Nations Unies, de dépasser le système de Bretton Woods, notamment avec la création de la nouvelle banque de développement des BRICS présidée par l'ancienne présidente du Brésil, Madame Dilma Rousseff. Donc, c'est également une volonté d'instaurer une autonomie et une marge de manœuvre économique et financière pour sortir du diktat des institutions de Bretton Woods. On voit qu'il y a également une volonté d'instituer une monnaie adossée à l'or, donc avec étalon or. Qui est une réponse à l'hégémonie du dollar. Donc, on est en pleine dédollarisation. Il y a la création d'un système SWIFT également, des échanges interbancaires autonomes par rapport au SWIFT occidental. Donc, il y a cette volonté. Mais il y a également cette réalité que de voir de nombreux pays asiatiques, arabes, africains, échanger avec leur monnaie nationale des biens et des marchandises. Donc, que le Kenya achète en rouble le pétrole russe, par exemple, ou les engrais russes, la Chine achète à l'Arabie saoudite son pétrole en yuan ou en riel. Donc, il y a cette volonté de sortir de l'hégémonie du dollar, donc de contourner ce vice de procédure et de forme qui est l'extraterritorialité de la justice américaine à travers le dollar. Donc, on l'a vu avec les sanctions contre la Russie, on a voulu sanctionner un pays à travers une devise, le dollar. Les Russes avaient bien évidemment boosté le rouble et développé des circuits parallèles qui leur ont permis de déjouer cette stratégie occidentale. Et on voit que les pays du BRICS, que les pays qui aspirent à l'accession au BRICS, empruntent également cette voie. Pour revenir à cette dynamique également informationnelle, qui est très importante, il y a également cette volonté de sortir du diktat des mainstream, des médias mainstream occidentaux. On a vu la politique des deux poids, deux mesures avec les chaînes Sputnik et Racha Tudeh qui ont été interdites en Europe, notamment, et en Amérique du Nord, parce qu'elles étaient accusées de relayer la propagande russe. Très bien, soit. Mais lorsqu'on voit que Paris s'offusque, lorsque le Burkina Faso ou le Mali bloquent et interdit l'accès à France 24 à leur pays, on comprend pas pourquoi tantôt on applaudit la fermeture d'une chaîne à capitaux russes qui émettait à partir de Paris et qu'on crie aux vierges effarouchées lorsque qu'un pays africain également interdit une chaîne française. Donc c'est l'hôpital qui se moque de la charité.
Excusez-moi, Monsieur Kateb, c'est aussi comme toute la campagne de à géométrie variable par rapport à ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, au Mali et au Niger, et ce qui se passe au Tchad. Au Tchad, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Je parle des médias, je ne parle pas du pays africain, je parle des médias occidentaux, notamment français. Donc, comme il n'y a pas de problème, voilà, donc on soutient, c'est la bonne solution, bien que tout le processus est anticonstitutionnel. Nous souhaitons la réussite hein, à la transition et tout au Tchad. Mais c'est-à-dire cet aspect-là de deux poids, deux mesures ne fait que en fait, renforcer d'abord le mépris qu'ont ces médias par rapport aux pays africains. Et en plus de ça, comme vous venez de l'expliquer, le mensonge qui éclate et le double langage qui éclate dans toute son ampleur.
Effectivement, c'est une hypocrisie française, notamment et occidentale plus en général. On est dans une posture qui dit « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Les Français se permettent beaucoup de choses et beaucoup de liberté lorsqu'il s'agit de leurs propres médias, mais interdisent aux autres d'avoir les mêmes libertés.
D'accord, bah, je vous remercie, Monsieur Kateb. Et nous passons à la dernière question. La question centrale qui se pose désormais, dans le futur proche au moyen terme ou long terme, est de savoir si un ordre global pourrait être recomposé ou si des ordres régionaux, maintenant certes des relations entre eux, mais se développant de manière autonome et construisant des systèmes propres de valeurs et de représentation. Tous les scénarios sont...
C'est une question très pertinente. Donc pour revenir au sujet central, c'est-à-dire les BRICS, on voit qu'il y a à travers ce groupement de pays un ordre multipolaire complexe. On est dans un duopole, certainement qu'on sera durant plusieurs années dans un duopole américano-chinois d'un point de vue économique. On sera dans un monde multipolaire d'un point de vue stratégique et d'armement, c'est-à-dire États-Unis, Russie, Chine. Donc on est avec ces pays qui détiennent un arsenal stratégique, nucléaire, très, très important. On pourra également être dans un ordre multipolaire de type symbolique qui va inclure des pays émergents, notamment africains, comme l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, ou arabo-musulmans comme la Turquie, l'Égypte ou l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc, on sera dans une sorte de monde polycentré, complexe, certes, mais qui instituera vraisemblablement la fin de l'hégémonie occidentale.
Mais l'Afrique, comment vous voyez, et à votre avis, quel serait le meilleur scénario, juste pour réfléchir à cette perspective?
Alors, pour l'Afrique, c'est d'abord le renforcement des structures de l'Union africaine comme organisation régionale. C'est très important qu'elle gagne en autonomie mais surtout en crédibilité par rapport aux populations africaines. On voit que, par exemple, dans l'affaire du Niger, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine refuse catégoriquement toute intervention étrangère dans ce pays, tandis que les pays de la CEDEAO appellent de leur vœu à une intervention militaire. Donc, il faut renforcer les structures continentales, leur donner davantage de crédit et de crédibilité par rapport au peuple africain, donner beaucoup plus de mandats au Parlement africain. C'est très important que les élus des peuples africains puissent légiférer des textes qui feront force de loi par rapport aux différents pays de l'Union. Mais il y a également le renforcement d'une certaine politique d'alignement stratégique entre certains pays africains, comme l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui peuvent, à trois, constituer une véritable colonne vertébrale du continent, d'autant plus que la ligne traverse le continent du nord vers le sud, et ces pays sont des géants économiques et également des puissances politiques et symboliques, non seulement dans leur région, mais également reconnues comme telles à l'international. C'est très important qu'il y ait des convergences de vues stratégiques entre ces pays-là pour pouvoir donner non seulement du crédit au continent africain à l'international, mais pour que l'Afrique soit véritablement le continent du 21e siècle et amorcer une prospérité continentale loin de toute prédation néocoloniale.
D'accord. Alors, une dernière chose, est-ce que la capacité donc des États-Unis à construire une hégémonie sur les autres puissances s'est effondrée et le groupe des puissances des BRICS conteste non seulement son hégémonie, mais aussi sa capacité à définir les institutions internationales. Et à votre avis, quelle est l'évolution ?
Alors, le curseur a été donné justement à l'occasion de l'affaire ukrainienne. On a vu que de nombreux pays, notamment en Afrique, qui avaient pour habitude de s'aligner sur les stratégies et les choix diplomatiques de l'Occident, faire cavalier seul, à défaut de soutenir la Russie, franchement et directement, s'abstenir, donc de ne pas la condamner. C'est déjà un pas en avant. Et c'est un clou supplémentaire qui est planté dans justement le cercueil de l'hégémonie américaine. Les États-Unis aujourd'hui peinent à imposer leur diktat à certaines régions à travers le monde. Mais on voit que les Américains gardent quand même certains leviers par rapport à l'Europe, notamment après le sabotage et la destruction du Nord Stream, qui a déconnecté l'Allemagne de la Russie, d'un point de vue énergétique et industriel, et à travers la fuite des industries françaises vers les États-Unis, on voit qu'il y a également un certain découplage, on le ressent très fortement aujourd'hui avec l'affaire du Niger. Washington est plus proche et plus convergente avec la position de l'Algérie qu'avec la position de la France. C'est dire déjà les changements qui surviennent au niveau du bloc de l'Occident intégral lui-même. C'est
D'accord.
quelque chose de très intéressant à observer.
D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Ahmed Kateb pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales. Ahmed Kateb, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Merci à vous.
Bien. Alors, pour la première question, Washington et le reste de l'Occident qui lui obéit, comme vous l'avez souligné à la fin de la première partie, utilisent leurs règles qu'ils ont établies sans aucune négociation avec les autres pays, ni même pas ni à l'ONU, ni au Conseil de sécurité, ni ailleurs. Et chaque fois qu'il est nécessaire de justifier des mesures illégitimes contre ceux qui construisent leur politique conformément au droit international et refusent de suivre leurs intérêts, égoïste. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord sont mis sur les listes noires selon le principe qui n'est pas avec nous est contre nous. Et tout le monde se rappelle, à ce titre, la déclaration fière du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, selon laquelle l'Europe est un jardin d'Éden et le reste du monde une jungle. Bien. Alors, dans le contexte actuel, les Africains ont-ils intérêt à prendre le virage des BRICS ? En dépit de tous les risques auxquels ils pourraient s'exposer et aux pressions qu'ils pourraient s'exposer. Et à votre avis, l'heure de l'émancipation a-t-elle sonné pour eux ?
Tout à fait. L'Afrique vit un véritable sursaut patriotique, un sursaut d'émancipation, un sursaut de panafricanisme, un sursaut d'orgueil contre les oripeaux du néocolonialisme et de l'impérialisme européen. C'est très important d'observer les mouvements sociaux, d'observer ces manifestations, d'observer ces changements de régime dans les pays du Sahel qui n'obéissent pas aux règles occidentales de regime change telles qu'ils ont été appliquées lors des révolutions colorées en Europe de l'Est durant la première décennie des années 2000 ou dans certains pays arabes avec le prétendu mal nommé printemps arabe après 2011, on voit aujourd'hui que ce sont les peuples africains qui s'émancipent et qui sont en osmose avec de nouvelles élites émancipées elles-mêmes de la tutelle néocoloniale et qui condamnent justement cette raison déraisonnée occidentale de seule une raison déraisonnée bâtie sur le complexe de supériorité, le complexe du colon et cette volonté de maintenir un joug et de maintenir ces pays sous un carcan d'un passé lointain mais que l'Occident refuse de dépasser justement. Tout le monde se souvient de la fameuse déclaration de Nicolas Sarkozy à Dakar, une déclaration dans laquelle l'ancien président français, accusé d'avoir assassiné Mouammar Kadhafi, le dirigeant libyen, avait dit « L'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire, c'est un non-sens absolu parce que l'être humain est né en Afrique et c'est prouvé ». Pour revenir à votre question...
Et juste une remarque, Monsieur Kateb, juste une remarque, c'est qu'il a tenu ce propos, ironie du lieu, à l'université Cheikh Anta Diop, un savant nucléaire de renommée mondiale.
Tout à fait, donc c'est une sorte de schizophrénie néocoloniale dans laquelle Sarkozy a démontré tout son art de mépris au peuple africain et à l'histoire de l'Afrique. Donc pour répondre, pour revenir à votre question de base, les pays africains n'ont rien à craindre d'accéder ou d'adhérer aux BRICS, bien au contraire, c'est une volonté d'émancipation. Les BRICS sont un bloc de pays qui représente l'avenir d'un point de vue économique, d'un point de vue démographique, d'un point de vue politique, ce sont des pays qui vont peser demain sur l'avenir du monde et les pays africains ont tout à fait raison de s'inscrire dans cette dynamique émancipatrice et de vouloir s'affranchir d'une tutelle qui n'a que trop duré, cette tutelle occidentale, impérialiste et néocoloniale.
D'accord. Alors, une dernière question de géostratégie et de géopolitique avant de passer aux questions économiques et financières liées à ce sommet des BRICS. Alors, lors de son dernier sommet à Vilnius, l'OTAN, qui a toujours son caractère exclusivement défensif de ses programmes militaires, a néanmoins déclaré sa responsabilité globale encore, ainsi que l'indivisibilité de la sécurité dans l'espace euro-atlantique et dans la région, je souligne, de l'Indo-Pacifique, ce qui met l'Afrique tout de suite dans l'œil du cyclone, parce que la région Indo-Pacifique, elle est justement au milieu de tout le continent, notamment de l'Afrique, en particulier de sa partie subsaharienne. Alors, c'est clair, je crois que la volonté de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis, tout simplement, des anglo-saxons en général, c'est de déplacer le pivot de la lutte géopolitique du Pacifique, telle que la doctrine lancée par Barack Obama dans les débuts des années 2010, et actuellement, il a transféré la chose vers l'Indo-Pacifique parce que c'est là où ils peuvent contrer en même temps la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie, l'Afrique, la Russie et même l'Amérique latine. Et donc, dans ce contexte, les Africains, M. Kateb, ont-ils intérêt à une coopération militaire plus renforcée avec les pays des BRICS, notamment la Russie, en dépit de toutes les pressions, comme la première question, qui peuvent s'exercer sur eux?
Les pays africains, justement, ont tout intérêt à se rapprocher de la Russie, même de la Chine, économiquement et militairement. On a vu le sommet de Saint-Pétersbourg, le sommet Russie-Afrique, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement des pays africains ont fait le déplacement. La Russie est un grand fournisseur d'armes pour les pays africains, ce qui les maintient dans une sorte d'équilibre par rapport à leurs fournisseurs traditionnellement occidentaux, français, britanniques et américains. C'est important que la Russie soit présente sur le marché africain de l'armement pour aider les Africains à sortir d'un tête-à-tête avec les puissances occidentales, donc sortir des conditionnalités occidentales, c'est très important. Les Chinois sont également là, les Indiens également. Donc c'est primordial pour les pays africains de diversifier leurs fournitures en armes, leurs achats en armes, pour pouvoir s'émanciper politiquement et stratégiquement de l'Occident intégral. Cet Occident qui a placé à travers la doctrine de l'OTAN un centre d'intérêt principal dans la zone Indo-Pacifique, donc ça couvre l'Afrique australe, ça couvre les côtes est du continent africain.
Mais c'est quand même incroyable, cette modification de la doctrine de l'OTAN, parce que, comme son nom l'indique, c'est l'Alliance Nord-Atlantique. Pourquoi intégrer l'Indo-Pacifique dans ses compétences?
Pourquoi intégrer l'Indo-Pacifique? Parce que dans la doctrine de l'OTAN, il y a nécessité de brider toute tentative russe ou chinoise d'hégémonie. Donc, quoi de mieux que d'élargir les champs de compétences de l'Alliance Atlantique pour couvrir l'Indo-Pacifique afin de contenir les puissances russes et chinoises par leur flanc sud. C'est très important. Les Américains échafaudent également une stratégie tripartite. On l'a vu récemment avec le sommet de Camp David qui a réuni le président Biden avec le premier ministre chinois et le président sud-coréen. C'est une stratégie également de containment, non pas de la Corée du Nord, comme il a été dit, mais surtout de la Chine. Donc c'est important de le souligner. Et ces pays-là sont concernés par l'extrême-orient russe. Donc on voit qu'il y a un œil qui regarde vers Vladivostok et vers le Kamtchatka et la Yakoutie. C'est pas innocent il y a ces tentatives de morcellement de la Russie. Il y a également ces tentatives de bloquer toute la stratégie chinoise dite de la ceinture et de la route, les nouvelles routes de la soie, qu'elles soient maritimes ou terrestres. Donc, comment freiner cet élan de la Chine et de la Russie dans leur duopole stratégique ou au sein des BRICS, c'est la véritable mission qui est dévolue actuellement à l'Alliance de l'Atlantique Nord, et la guerre en Ukraine s'inscrit justement dans ce schéma-là.
D'accord. Bien. Alors, passons maintenant aux questions économiques qui sont très importantes d'ailleurs. Alors, en juin de cette année, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a affirmé que le dollar resterait la principale monnaie de réserve mondiale pendant encore longtemps et peut-être pour toujours. Alors, je cite dans sa déclaration, elle dit « Il y a des pays qui aimeraient inventer un système sans dollars, mais je pense que cela prendra très longtemps, voire ne se produira pas du tout pour que le dollar soit remplacé comme principale monnaie de réserve », a-t-elle expliqué. Et selon elle, il n'y a pas d'alternative au dollar en raison de la force. Voilà ce qu'elle dit, de la force et le rôle de l'économie des États-Unis et de leur système économique. Alors, ma question, qu'est-ce qui se passe d'abord par rapport à cette déclaration? Que pensez-vous de l'idée des BRICS de créer une monnaie commune en vue de dédollariser leurs économies? Et quel avantage aussi les pays africains, notamment ceux de la zone franc CFA, pourraient tirer de cette monnaie commune s'ils décidaient, bien sûr, de l'intégrer?
C'est une très bonne question. La secrétaire américaine au Trésor est dans une sorte de wishful thinking, donc dans cette idée qu'on veut se faire et qu'on espère qu'elle se réalise. Donc c'est un désir, c'est un rêve qu'on prend pour une réalité. Il y a une dynamique inéluctable qui va tendre à la dédollarisation des échanges internationaux. Ça ne se fera pas, c'est vrai, du jour au lendemain. Ça prendra plusieurs années, sinon plusieurs décennies, ce qui est tout à fait normal et logique. Le dollar reste quand même la monnaie de référence, mais ce n'est plus l'unique monnaie avec laquelle, par exemple, on achète les hydrocarbures. Il y a, aux côtés du pétrodollar, il y a le pétro-yuan, donc la devise chinoise. Il y aura probablement le pétro-rouble, la devise russe. On s'acheminera inéluctablement vers des échanges avec les monnaies nationales. Et avec la proposition des BRICS de création d'une monnaie commune internationale adossée à l'or, donc on revient avant 1971, avant la décision du président Nixon, qui a découplé le dollar de l'étalon or pour rendre le dollar l'étalon mondial qui mesure toute chose, toute marchandise, tout bien, etc. Donc il a donné cette force politique et stratégique au dollar américain. Aujourd'hui, il y a une dédollarisation qui est en marche. Il y a une volonté d'aller de l'avant avec cette nouvelle monnaie en gestation qui pourra supplanter le dollar dans plusieurs années, pourquoi pas, et une monnaie qui balayera, on l'espère tous, le franc CFA, qui est aujourd'hui une véritable supercherie et un levier de la puissance française qui maintient les pays africains sous un joug de domination qui n'a plus lieu d'être. Pourquoi aujourd'hui le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina, le Tchad, etc. continuent à fonctionner avec une monnaie qui est établie à Paris par la Banque de France? Pourquoi il continue également de fonctionner avec une devise dépréciée par rapport à l'euro, parce qu'elle est alignée sur l'euro. Mais par rapport à l'euro, elle est fortement dépréciée. Pourquoi ? Ces pays-là ne revendiquent pas leur libération, leur indépendance monétaire par rapport à cette monnaie coloniale. C'est ça le fond de la question, et c'est peut-être ça qui motive au fond les gesticulations françaises par rapport à tout ce qui se passe au Sahel. On veut maintenir ces pays dans une sorte de position subalterne à travers la multiplication de pressions sécuritaires, pressions économiques, pressions financières et pressions politiques.
Bien. Par rapport à ça, je rappelle que vous avez bien raison de le soulever, c'est que l'euro, c'est la monnaie de référence du franc CFA, et un euro coûte environ 650 francs CFA, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est dans les environs, et effectivement, c'est une monnaie extrêmement dépréciée. Et donc, toute fluctuation de l'euro ou augmentation de l'inflation, les Africains la payent très, très cher. Et par rapport à ça, il faut aussi rappeler qu'à ce jour, les pays africains membres de la zone CFA sont obligés de déposer 50% de leur devise, de leur réserve en devise forte, en dollars ou quelque chose d'autre, à la Banque de France, contre laquelle elle reçoit ils reçoivent les francs CFA. Et je rappelle encore plus que le franc CFA de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest n'est pas convertible au franc CFA des pays de l'Afrique centrale. Et donc, ce qui permet à la Banque de France de contrôler tous ces pays et d'une manière complètement illégitime. Il n'y a pas de raison que ce système puisse encore exister. Bien. Alors, la question suivante. Monsieur Ahmed Kateb, les sanctions occidentales illégitimes, donc pour continuer dans le même sens, alors les sanctions occidentales illégitimes et illégales anti-russes, notamment en ce qui concerne la confiscation des avoirs de la Banque Centrale de Russie, à votre avis, ne sont-elles pas un avertissement à tout pays qui prendrait à la légère la question de rester otage du système financier occidental basé sur le dollar et l'euro?
Tout à fait, vous avez raison de poser cette question. Pourquoi ? Parce que le moment ukrainien en 2022 a été un véritable catalyseur pour l'intensification de la recherche de nouvelles stratégies d'internationalisation des monnaies. Et internationaliser non pas n'importe quelle monnaie, on parle essentiellement des monnaies non occidentales. De nombreux pays ont décidé de commercer avec leur propre devise, leur propre monnaie nationale, après avoir vu ces sanctions justement illégales et immorales qui ont frappé la Russie après le début de l'opération spéciale en Ukraine. Donc, comment justement sortir de cette logique qui tend à placer l'euro et le dollar comme étant des monnaies, entre guillemets, armes. Ce sont de véritables armes à travers lesquelles l'Occident intégral maintient une pression sur les pays non occidentaux, sur le Sud global ou sur les autres pays émergents. Je pense que les pays du monde ont compris qu'il était très dangereux pour eux d'avoir tous leurs actifs en dollars, d'avoir caché leurs réserves d'or dans des banques américaines et ou européennes. Donc, en cas de sanctions, on l'a vu déjà avec la Libye, avec les sanctions qui ont frappé la Libye et les confiscations des avoirs libyens de la Banque centrale libyenne. Et on ne parle pas des avoirs de personnalité ou de dirigeants. On parle des avoirs de banque centrale qui sont dévalisés, parce que c'est le mot, ils sont cambriolés. C'est un vol caractérisé de ces avoirs.
Et à ce jour, rappelons-le...
Le pseudo-légalité internationale.
Oui, rappelons-le que la Banque centrale libyenne, bien qu'il y ait un gouvernement, n'a toujours pas pu récupérer ses fonds.
Il faut, tout à fait.
Il faut d'abord, ils vont me dire, il faut d'abord qu'ils sachent où ils sont.
C'est ça. C'est ça le problème. Donc, il y a eu le précédent libyen qui, en principe, aurait dû faire réfléchir tous ces pays quant à leur devenir financier, économique, mais surtout leur avenir en tant que pays indépendant. Prendre en otage les avoirs en devise ou en or, c'est quand même une sacrée pression contre ces pays. Donc, comment s'émanciper ? Là, les BRICS, je pense, ont trouvé la parade, c'est-à-dire créer une nouvelle banque de développement avec des conditions de prêt très, très souples, très favorables, très humaines par rapport aux conditions de prêt utilisées actuellement par le FMI et la Banque mondiale, créer à terme une monnaie commune pour sortir de l'hégémonie du dollar et de l'euro et pour casser justement la logique qui fait que ces deux devises sont des monnaies et en même temps des armes politiques et financières, et essayer justement de gagner en autonomie énergétique pour pouvoir déjouer toutes les manœuvres possibles de l'Occident intégral qui tend à asphyxier les pays en question. On voit, par exemple, aujourd'hui, que les manœuvres autour du Niger visent, entre autres, à saboter le projet du gazoduc qui doit lier le Nigeria à l'Europe à travers le Niger et l'Algérie. Donc, il y a cette guerre non déclarée de pipeline. On l'a vu avec le Nord Stream. On le voit avec le Nigal aujourd'hui. Il y a une guerre non avouée qui est faite à travers les pipes pour pouvoir peser sur les choix politiques et diplomatiques de certains pays. Aujourd'hui, il est très important de méditer l'exemple russe à travers le succès qu'a enregistré la Russie pour déjouer les sanctions occidentales et trouver des mécanismes autonomes pour pouvoir garder une large marge de manœuvre et de garantir autant que faire se peut les indépendances respectives de ces pays.
D'accord. Bon, alors, une dernière question, monsieur Kateb. Les BRICS, en parité de pouvoir d'achat, viennent de dépasser en richesse le G7, notamment en termes de production physique, industrielle et agricole. Il est de même pour les capacités scientifiques et technologiques. Alors, comment les pays africains devraient profiter de la main tendue des BRICS pour les aider à se développer ?
Les pays africains ont tout à gagner à travers l'établissement de partenariats solides, l'établissement de véritables coopérations et une diversification de leur partenariat économique pour gagner l'Inde, la Russie, pour gagner le Brésil, et pour qu'il y ait des échanges interafricains beaucoup plus denses et beaucoup plus forts en termes de flux financiers. C'est une sorte d'autonomie que les Africains gagneront et ça permettra justement de mieux maîtriser leur sous-sol, leur richesse, de mieux maîtriser leur développement et de mieux maîtriser leurs relations diplomatiques à l'international, parce que ce seront des relations plus équilibrées, moins biaisées, c'est-à-dire moins alignées sur les anciennes puissances coloniales ou l'Occident intégral.
Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Ahmed Kateb, je vous remercie pour cet entretien. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre occasion pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.